Sono pronti anche gli incomiabili e incomiabili traduttori, traduttrici di Radio Onda Rossa. Perché magari non sembrerebbe che non sappiamo parlare italiano, ma sappiamo parlare talmente tante lingue.
On danse les flaques, 69ers pocket. Fais plus de beat, tu m'as stone age. Musique d'Apache, l'Amérique s'habitue pas au but du bon sauvage. D'écriture, rouge nuage, regarde des blocs partis. Pour des orages fertiles, ils ont mis nos réserves parmi.
In attesa di concludere la dislocazione di tutti gli ospiti e tutto questo gruppo che adesso andremo a presentare, a raccontare come esperienza di esperienza di organizzazione, di lotta in quel di Parigi.
MC reporter, triopateur, récite ses histoires et qui te marqueur. Dans les impasses, tu mets le bras dans les ghettos blasters. Le cuir des masques, le trio mic parce que la crise à Saïti se sent par cœur. Rapporteur de guerre de casse, des cartes de quartier, porteur de casse. Soldats des hommes des chantiers dans le revers des cartes. Silence des gens au fond des tranchées, prendre distance pour ces légions d'étrangers. Couleur et colère mélangées, MC démon oculaire. Cette cité loin, vue du cul d'une société spectaculaire, enragée. Engage jusqu'à annulaire. Erich ses idées comme tes allures. Ramène la lumière sous la lune crève. Qu'on enlève la lune vers l'univers. Avant qu'il ne l'ait vendu. Décapiter ce système polaire. Même si tant d'un transport plus clair n'est pas répondu. Te promet rien que des champs populaires. La force cachée de la rue, le poids du nombre. Sur leur marché, nous on est noir de monde. Entre offres et demandes, coins, c'est la mandiase. Où elle se demande. Si le vendeur mensonge, on les mange. Sa chanson est coup de vent. Vers ceux qui souffrent tout en restant debout devant. Les billets, ces vieux bouts de banque. Elles représentent les oubliés, les ouvriers. Fin de compte, c'est grand tablier, c'est tablier de honte. Prier d'habiter le béton, par les bols, par les pentes. Tourmenter les ghettos, prier, rentrer la tête dans les taux. Entre les fenêtres et la porte, peu importe, et la main tôt.
Joueur de mic, poseur de prod, musique mosaïque, tatoueur de mur comme Sykes. Ça l'éclate, brille quand ça explose. Pose pas au musée, la rue c'est qui fait les choses. Les sons funky qui font, qui fait les portes. Se met comme méga funky en pose des portes. Défend la même parole, la même viande, face au corps, de force de l'ordre. Pousseur de troupeau d'accord, fomenteur de l'autre hardcore. Poseur de foule, casseur de sort, auteur de soupe. Se sent bien fort et sort sa bouche de l'or. Que touche leur débouche, cherche un fou dehors. Fais parler la tour, rappeur court le rythme. Si tu vois pas le rapport, mais tu te gourmes. Mais à quoi tu rimes, si t'as pas de discours, alors c'est que tu frimes. Tout pour soi, tu poursuis la loi du fric, c'est que tu mimes. Comme cette poignée de connards qui se fait des films, des affaires sur ton polar. Faut que leur mère leur propre, faire un berloque. Tu rappes dans les règles dollars. Artisan, chanteur, partisan, MC, entends-tu, c'est mon noir, sous nos peines. Si souris, nous enferme, c'est l'alarme. Frappe le vague, alarme après, nous enferme. C'est cri en larmes de sang, langue de ceux qu'on corps se pour sur leur haine. Thank you.
E così, andando a sfumare sulla musica portataci tra l'altro appunto da questi ospiti, da quel di Parigi, dalla cintura periferica della metropoli Parigi francese, abbiamo qui alcuni appunto questi ragazzi che sono venuti a trovarci a Roma in questi giorni in occasione di un incontro che si è svolto fra attivisti di varie nazionalità provenienti da alcune metropoli europee, da Barcellona, anche da Copenaghen, dalla Danimarca, per un dibattito sulle metropoli. Cogliendo l'occasione del loro passaggio pensavamo fosse utile, soprattutto appunto dato che ci troviamo ora evocativamente, possiamo dire anche casualmente, al secondo diciamo anniversario della rivolta del 2005, una rivolta che ha visto protagonisti proprio quelle periferie, quei quartieri della cintura periferica di Parigi, che appunto con questo incontro vorremmo anche trasmesso in diretta alla radio, vorremmo in qualche maniera avere modo di anche approfondire, di raccontare nel suo quotidiano appunto, e non solo quando la visibilità, i riflettori della in qualche maniera dei media europei, dei media ufficiali in qualche maniera ci riportano un po' quello che succede, le notizie. Quindi adesso con una piccola pausa musicale di pochi secondi possiamo andare a iniziare lasciando la parola direttamente a loro, a Nordin, Mohamed e Simon, che sono venuti appunto a trovarci, per iniziare magari con un racconto, proprio intanto una presentazione, quello che siete, come in qualche maniera vi presentate, come vi organizzate, come in qualche maniera vivete la vostra attività all'interno dei quartieri parigini da cui provenite.
On pue les caves, au profit des cages. Une fois c'est malade, apprivoise, il rage, t'es la rage. Pas d'histoire de mec en rate. Qu'avait un berge, on rembarge. Quand berge pas, tu viens en barre. En bas, ta haine, on embarque. Sur ce navire, content de temps, c'est pas, t'es qu'une marque. Content de faire de la merde au mic. T'as le mal de mer, j'arte. De wesh, t'es j'ai un âge. Seul en temps, un seul, c'est t-shirt Nike.
Allora, lasciando, come dicevamo, come annunciato, la parola appunto a questi ragazzi che sono venuti a trovare, a Nordin. Se appunto vuole iniziare con una presentazione del MIB, di questo movimento di cui spesso sentiamo parlare qua in Italia e che appunto penso solo dalla vostra voce adesso possiamo avere anche ancora maggiori elementi di conoscenza dell'attività quotidiana e dei percorsi di lotta che intraprendete a Parigi.
Salut tutti, bonsoir. Buonasera.
Buonasera.
Je remercie les gens qui nous ont invités ici à Rome. Je voulais les saluer et les remercier. Car c'est pas tout le temps qu'on a l'occasion de se déplacer comme ça en Europe pour expliquer un peu ce qui se passe là d'où on vient. Mais on sait qu'on n'est pas les seuls à vivre cette situation-là. Et qu'ailleurs, dans d'autres pays d'Europe, même à Rome, ici, là où on est aujourd'hui, et où on était avant-hier pour un débat sur l'évolution urbaine des quartiers périphériques des grandes villes. Donc nous, on est de la banlieue parisienne.
Intanto andiamo a tradurre questa prima parte per rendere diciamo anche l'ascolto della trasmissione un po' più fruibile per gli ascoltatori. Nordin ringrazio appunto i compagni romani per essere ospiti qui, le occasioni per venire a raccontare l'esperienza francese in Europa sono abbastanza rare. L'occasione che c'è stata appunto venerdì, quella che c'è stata al Cinodromo, l'incontro per raccontare le evoluzioni urbane, è stata estremamente positiva.
Sì, vorrei aggiungere appunto, non ho dimenticato nella premessa di dire che, dato che l'intervista comunque verrà appunto svolta in francese, ci saranno, richiederemo anche un po' di tempo per le traduzioni, quindi ci scusiamo magari per la volta lentezza di alcuni passaggi, ma vogliamo così rendiamo insomma tutto più semplice e chiaro.
Donc j'expliquais qu'on était là, on a eu une discussion avec des gens qui venaient bon, d'autres endroits, de Barcelone et de Copenhague, où bon, il s'est passé des événements à Copenhague où des gens ont été expulsés d'un local qu'ils utilisaient depuis quelques années, où ils menaient des activités. Puis à Barcelone, d'après ce que je sais, il y a une espèce de nettoyage social qui est en train de se produire. C'est ce qui se passe aussi à Paris. C'est-à-dire que on va pas dire aux gens vous êtes pas beau dans le paysage, mais du fait que le coût de l'immobilier et autres sont en train d'évoluer et qu'il y a une certaine qualité de vie à Paris, et puis en première couronne, et ben on essaye de faire en sorte que les plus pauvres qui font pas bien dans le paysage soient le plus loin possible, quoi. Donc les familles en difficulté et autres.
Allora, abbiamo partecipato a questo incontro appunto che ha visto realtà confrontarsi realtà provenienti da altri posti d'Europa, da Barcellona e da Copenaghen. Copenaghen che appunto è stata la città che ha visto tutti i conflitti legati allo sgombero della Casa della Gioventù lo scorso anno, mentre a Barcellona è in atto una specie di pulizia chiamata pulizia sociale che è simile a quella che si vive a Parigi, cioè attraverso il caro immobili, insomma in qualche modo il caro immobili, si usa questo strumento per espellere gli indesiderati dai centri urbani e mandarli sempre più lontani.
Pour revenir un peu plus précisément pour que les gens ils arrivent à nous identifier, moi j'ai pas 20 ans, j'ai une quarantaine d'années, je suis né en banlieue et malheureusement ce que je peux dire c'est que les années passent, mais que la situation elle s'améliore pas forcément et qu'elle change de manière beaucoup plus grave. Parce qu'on est rentré dans une espèce de criminalisation des habitants de ces quartiers populaires, en les stigmatisant, en les montrant du doigt, en les rendant responsables de ce qui se passe dans la société. Et des fois, on dirait même du chômage et de la misère dans le monde, des fois pour un peu rigoler entre nous.
Tanto per identificare in qualche modo anche chi sta parlando, io ho 40 anni, sono nato in banlieue e ho visto anche gli anni passare, la situazione evolvere assolutamente non in meglio, anzi in peggio, con una progressiva criminalizzazione degli abitanti di questi spazi che vengono di volta in volta additati come i mali come i responsabili dei mali di tutta la società, comprese poi la disoccupazione e quant'altro.
Ce que nous on appelle plus précisément la criminalisation des habitants des quartiers, mais pour revenir un peu plus avant, le MIB s'est créé en 93 de la volonté des gens qui avaient fondé entre autres le comité national contre la double peine, contre la double peine. Pour les jeunes issus de l'immigration qui étaient nés là ou qui avaient leur famille en France et qu'on voulait expulser absolument, les bannir du territoire. Et à ce moment-là, on s'est dit, nous, bon, faisant ce travail-là de manière, comme on va dire, des professionnels, parce que pour parler d'un problème, il faut le connaître, il faut aussi le maîtriser, les tenants et les aboutissants, on a appris les lois qu'on ne connaissait pas. On a appris aussi à faire les démarches nécessaires avec les gens et en soutien aux gens, parce que le plus grave des problèmes quand on est victime de quelque chose, c'est de se retrouver isolé, tout seul, face à l'administration, face aux autorités, et d'être ainsi vulnérable. Alors qu'avec d'autres, en s'associant les uns aux autres, eh ben on est moins vulnérable, on est moins facile à manipuler et on a plus de force.
Allora, il MIB, che è il movimento appunto che rappresento, è il movimento degli immigrati delle banlieue, nasce nel 93 tra l'altro dai fondatori del Comitato Nazionale contro la Doppia Pena, che era il comitato che si opponeva anche all'espulsione degli immigrati di seconda generazione in Francia in quegli anni, per l'appunto. Era stato un percorso che poi ha previsto anche, cioè che in qualche modo ci ha costretti anche a confrontarci con tutta una serie di realtà, a dover conoscere delle leggi che noi non conoscevamo, a cercare dei sostegni che finora non avevamo, per cercare di non essere soli contro, appunto, contro il sistema, perché chiaramente la solitudine ci rendeva più deboli e più vulnerabili.
Donc nous en 89 on avait ce qu'on appelle monté un collectif qui s'appelait Résistance des banlieues et qui essayait de répondre par rapport à ce qui se passait surtout sur les quartiers. Et un des points, c'était la double peine. Donc qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a tenu des permanences juridiques, hein, en s'informant, en connaissant, en finissant par maîtriser les lois auxquelles on s'attaquait, de manière à ne pas être dépendant d'autres, comme un dealer, comme quelqu'un qui est en manque, dépendant de son dealer, hein, parce que c'est ça aussi qui se passe quand les gens maîtrisent la connaissance et le savoir. Ils ont une façon très au goutte à goutte de la donner. Et nous, on ne voulait pas subir ce goutte à goutte et plutôt maîtriser les tenants et les aboutissants de ces lois de manière à pouvoir aider à la hauteur de la souffrance que les gens subissaient.
Nell'89 abbiamo creato un collettivo che si chiamava Resistenza Banlieue, che si proponeva in qualche modo di rispondere alla situazione delle banlieue, tra cui appunto questa questione della doppia pena, e abbiamo imparato a conoscere le leggi anche per non dipendere in qualche modo da chi le conosceva prima di noi, perché chi detiene la conoscenza la direziona con molta parsimonia e non volevamo trovarci in qualche modo nella situazione dei tossicodipendenti che ricevono una dose, che aspettano la dose e non possono fare altro che aspettare che gli venga elargita, insomma.
Per noi questa loi che è stata applicata sulle enfants issus d'immigration, on va dire, c'est les mauvais enfants, ceux qui malheureusement ont eu des problèmes à l'école, ceux qui ont malheureusement connu la prison, parce qu'on ne leur a pas aussi laissé d'autres choix dans la société que la survie au quotidien, parce que la précarité, c'est bien beau de dire la précarité, mais encore, quand on la subit, on comprend encore mieux ce que ça veut dire la précarité. Et on est, nous, une génération qui, pendant longtemps, dans la société dans laquelle on a grandi, on était invisible, donc pas visible. Donc il y avait un problème qu'il fallait expliquer aux autorités et aux autres, même aux partis politiques, que les enfants issus de cette immigration-là, ils n'entendaient pas à se taire, mais qu'ils n'allaient pas continuer à être les victimes de ces politiques qui étaient menées.
Alors... Questa legge che è applicata appunto sui figli, su questi ragazzi della seconda generazione, che erano dei ragazzi che hanno conosciuto tutta una serie di problemi, dal carcere, che non hanno mai avuto veramente una possibilità di scelta e che hanno sofferto sulla loro pelle in prima persona quello che significa precarietà. Noi eravamo appunto una generazione comunque di invisibili e in qualche modo abbiamo voluto cominciare à dire que existavamo et cominciare à prendre parole.
Donc, on s'est dit, une fois qu'on avait fait bon un certain travail sur la double peine, on s'est dit que on s'était cloisonné seulement à un problème. Mais à côté de ça, on travaillait aussi sur d'autres problèmes. Le problème du logement, le problème des crimes policiers ou sécuritaires, qui sont malheureusement en France, ont été pendant des années, chaque année il y avait des jeunes qui se faisaient assassiner, soit par des beaufs, soit par des policiers, soi-disant en situation de légitime défense. Mais nous, on sait que dans certaines affaires, ça a été des assassinats, des crimes d'État, parce que ces policiers ont été protégés par l'État, alors qu'ils ont assassiné par derrière, qu'ils ont tiré à l'arrière des personnes, dans la tête. Et on a pu le voir à différentes reprises que la justice, elle a non seulement acquitté ou mis des peines misérables que n'importe quel jeune, pour un vol simple, pouvait prendre.
Allora, dopo questo lavoro sulla doppia pena abbiamo spaziato anche su altri argomenti, appunto su tutta la tematica del problema abitativo e sui crimini polizieschi, anche chiamati da noi securitari, ovvero di tutti quei giovani ammazzati dalla polizia in veri e propri crimini di Stato perché appunto protetti dallo Stato e con una giustizia che in qualche modo ha sempre assolto o comunque combinato pene minime a questi poliziotti, pene molto inferiori a quelle che sarebbero state invece inflitte a un qualsiasi giovane anche soltanto per furto.
On est dans un état en France où suite à des crimes commis par la police on se retrouve avec des enquêtes menées par la police qu'on appelle l'inspection générale des services, qui est la police des polices. Comme vous direz, la policia des policia, c'est-à-dire qui va contrôler les policiers. Mais c'est une plaisanterie. Dans n'importe quel autre état, on dirait qu'il y a des policiers qui mènent des enquêtes sur des policiers. On rigolerait si ce n'était pas dramatique. Et c'est dramatique parce que dans le sens où ces policiers-là viennent seulement soit donner des éléments de défense aux policiers qui sont inquiétés dans ces affaires-là, ou alors venir étayer la thèse de la légitime défense.
Dopo ognuno di questi crimini di polizia interviene, secondo la procedura francese, una sorta di polizia della polizia, che sembra una farsa, ma che in realtà è una cosa drammatica nel suo svolgimento, visto che poi questa gente viene, questi in qualche modo controllori, vengono solamente a portare degli alimenti per la difesa dei poliziotti, per giustificare eventuali legittime difese o cose del genere.
Dans ces affaires-là, quand on en parle, on peut en parler, c'est assez rapide comme ça, mais il y a une affaire sur laquelle on a été, d'un jeune qui s'est fait tuer à Mantes-la-Jolie, d'une balle dans la nuque, où la procédure a duré 10 années. Pendant ces 10 ans, la famille, elle a souffert. C'est-à-dire que la mère n'a jamais pu faire le deuil. Elle a peut-être enterré son fils, mais la justice, elle a re-assassiné une deuxième fois. Pour nous, en ce qui nous concerne. On s'est pris une claque au moment du verdict. Mais ça n'empêche que si on n'avait rien fait, ça aurait été encore pire. Dans le sens où très vite ils auraient étouffé l'affaire, très vite ils auraient classé l'affaire. Mais le fait qu'on soit présent au moment de certaines décisions, chambre d'accusation ou devant le tribunal pour protester contre les décisions, a fait qu'il y a eu un jugement. Il est passé en jugement. Il a été jugé en cour d'assises, comme on dit, c'est la plus haute juridiction d'un tribunal de grande instance, la cour d'assises, qui est une chambre où on juge pour les actes de crime, et bien ils l'ont acquitté. Mais on sait, parce que les plus jeunes parce que c'est pas évident aussi à expliquer, parce qu'après il faut expliquer comment ça se fait que pendant des années vous vous êtes battus. On s'est battu pour obtenir ça, pour obtenir que la personne soit acquittée. Et bon, c'est pas des questions forcément faciles sur lesquelles on est, mais on a voulu aussi aller sur d'autres terrains qui sont des terrains importants sur lesquels on est souvent en première ligne. L'éducation, les problèmes de logement, j'en ai parlé.
Allora, ad esempio, nel caso di un giovane ucciso con un colpo di pistola alla nuca, che con un processo che è durato per il poliziotto 10 anni, che sono stati 10 anni di sofferenze per la famiglia, 10 anni in cui non c'è mai stata la possibilità di trovare pace per la famiglia, e in qualche modo il verdetto che è uscito da questo processo è stato come se questo ragazzo fosse stato ucciso 2 volte, però in qualche modo è stato anche importante comunque protestare per questi 10 anni, perché soltanto queste proteste hanno portato al processo e hanno permesso comunque almeno lo svolgimento di un processo, anche se poi si è risolto con una soluzione della gente, che è stata poi anche difficile da spiegare ai giovani, perché è anche difficile spiegare 10 anni di lavoro su un tema con un risultato come questo.
Scusate, io ovviamente sento insomma la centralità del discorso intorno alla repressione che sta appunto portando avanti Nordin, e mi viene in qualche maniera anche spontaneo chiedere dove in qualche maniera vedono un dibattito politico che abbiamo visto sotto le elezioni presidenziali, almeno con il filtro della stampa ufficiale, una combattuta molto a colpi di pulsioni securitarie bipartisan da parte di sinistra e della destra. A spuntarla è stato questo governo un po' meticcio politicamente, dato espressione di un liberismo molto attuale, anche se molto aggressivo, con tutti i suoi contorni anche insomma di corollari di partecipanti provenienti dalle famiglie politiche della sinistra, il nostrano Bassanini in testa come collaboratore del governo di Sarkozy. Ora, quindi qual è, non so se ne, soprattutto per quanto riguarda i tempi recenti, anche facendo magari una panoramica dal 2005, da quel novembre che abbiamo visto, che sta vedendo adesso ancora altre condanne arrivare ancora, appunto, e questo non ci arriva come informazione, in qualche maniera dove quel problema sociale che si era esplicitato in quell'annata, che dalle periferie alle lotte contro la precarietà, ha visto la Francia essere molto insomma calda come situazione appunto di tensione sociale, come si è risolta dal punto di vista appunto dell'applicazione poi di questi in qualche maniera minacce di gestione dell'ordine pubblico e dell'ordine sociale che erano state paventate prima delle elezioni.
Des conséquences, il y en a, ça fait quelques années, hein, tu sais. La situation, malheureusement, depuis les premières émeutes, depuis qu'il y a eu des émeutes, il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une émeute en France, il y a des décisions gouvernementales qui sont prises pour mettre en place des politiques, soi-disant pour améliorer le sort des habitants. Hein. Tout doucement, on a évolué. On ne veut plus améliorer le sort des habitants. Parce que ces habitants-là, on a une défiance à leur encontre. On est défiant contre eux. On les soupçonne. Hein. Soit ils refusent l'intégration, ils refusent les lois de la République, ils sont pas gentils, ils font des problèmes à l'école, ils font des problèmes dans les transports. Donc, tout doucement, on a vu la gauche de gouvernement, la gauche de pouvoir, arriver à dire qu'elle, il fallait qu'elle se décomplexe par rapport à la droite. Donc qu'est-ce qu'elle a décidé, elle? C'est de mettre en place, parce que bon, beaucoup, peut-être ici vous ne savez pas, mais nous on a une police qui a été créée en 90, un service spécial qui s'appelle la BAC, la Brigade Anticriminalité, qui sont des policiers qui vont se mettre en avant, qui sont pas choisis, des volontaires qui vont se mettre en avant pour rentrer dans ce corps. Et en vérité, hein, de criminalité à laquelle ils s'attaquent, c'est des histoires de scooters, de rouler en scooter mais sans casque, des histoires de misère. Il n'y a pas la criminalité, parce que la vraie criminalité, c'est certains qui sont au pouvoir qui l'organisent. Hein, nous on est sur ce sujet-là, on est clair. Il y a des gens qui font de la politique, qui ont eu le pouvoir pendant pas mal d'années, pour lesquels il y a eu des affaires qui sont sorties, et pour lesquels ils n'ont jamais été poursuivis ni condamnés. On les a pas vus en prison. Tandis que des jeunes, au moment des révoltes de 2005, pour leur apprendre à bien se révolter, bon, on a dit que c'était pas organisé, que c'était pas machin. Oui, c'est peut-être une réalité, mais le fond, c'était quoi? C'est qu'il y en a marre de la vie qu'on a. Il y en a marre de cette situation, il y en a marre de cette précarité, il y en a marre d'être relégué, il y en a marre de ne pas pouvoir se soigner, il y en a marre de ne pas trouver de travail et d'être discriminé, d'être interpellé par la police, d'être condamné par la justice. Et ça, ça pour moi, en tout cas pour nous, ça expliquait tout ça. Ça expliquait tout ça. C'est pas comme ça, on se lève pas un jour et on dit on va brûler des voitures. Ça n'existe pas, ça. Il y a toujours quelque chose. On l'a toujours. On a toujours une raison pourquoi on fait quelque chose. En tout cas, quand. Bon. Aujourd'hui, j'ai un certain âge, mais à l'âge de certains jeunes, j'ai été. Je ne vais pas dire comme eux, parce que c'est eux qui sont comme moi, qui sont comme moi aujourd'hui.
Diciamo che queste effettivamente queste minacce hanno avuto un seguito, ma non è tanto una novità, nel senso che sono anni che da noi si vive così, sono anni che ci sono rivolte in Francia e ad ogni rivolta vengono prese tutta una serie di decisioni politiche. Prima queste decisioni erano tese in qualche modo, veniva detto, a migliorare la vita degli abitanti delle banlieue. Adesso la situazione è cambiata, c'è anche molta più diffidenza, si è creata questa con la criminalità, questa diffidenza verso gli abitanti delle banlieue, visti come persone che creano problemi per l'appunto, e anche la sinistra di potere ha in qualche modo deciso, hanno usato il termine loro stessi, di non voler più avere complessi verso la destra, quindi è stata creata negli anni 90 la BAC, che è la cosiddetta brigata anticriminalità che opera nelle banlieue, che sono un corpo di polizia di volontari che però di fatto se la prende con episodi di micro illegalità, cioè magari uno che va in motorino senza casco, situazioni del genere, e non con la vera criminalità, quella del potere. Nel momento in cui ci sono politici che non vengono mai giudicati, anche dopo l'esplosione di scandali anche molto palesi, arrivano le rivolte che esprimono in qualche modo l'insopportabilità di una situazione, di tutte queste situazioni, e questo sentimento di discriminazione sta alla base poi appunto di tutte queste rivolte, perché non è che uno si sveglia la mattina e pensa di andare a bruciare le macchine, c'è tutta un sentimento di insofferenza che matura per anni e che esplode in questi momenti.
Ouais, donc pour en revenir à ce qui est de la criminalisation des gens, quand la gauche était au pouvoir en 90, elle a mis en place ce qu'on appelle les plans locaux de sécurité, qu'elle faisait signer par les communes, avec un partenariat entre l'école, la police, et puis ça commençait dès l'école primaire. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir ce genre de travail à partir des enfants, des petits gamins, d'avoir des spéculations sur eux, du fait de leur comportement et autres, pour arriver à plus facilement, prévenir la dangerosité ou la future délinquance d'un enfant. Ce qui est quand même, pour une société démocratique et une république, c'est un scandale. C'est un scandale, c'est une honte. Mais pourtant, c'est la gauche qui l'a mis en place. Il y a des documents, des fiches de signalisation qui circulaient début des années 90 sur le signalement des élèves qui posaient des problèmes dans les collèges et dans les lycées, avec une note du chef d'établissement, et ces documents-là, des fois, étaient transmis au procureur pour poursuivre, des fois pour incivilité ou pour d'autres problèmes. Mais ça n'empêche que le travail entre l'éducation nationale, la police, la justice, et qui encore, c'est quoi? C'est déjà, il y a un état d'esprit. C'est-à-dire, on stigmatise toujours la population des quartiers populaires.
Allora, è stata la sinistra intanto negli anni 90 a introdurre delle sorte di quelli che vengono chiamati i piani locali di sicurezza, che sono appunto queste sorte di patti firmati tra comune, polizia ed istituzioni scolastiche, che già dalle elementari prevedono delle collaborazioni anche abbastanza strette, dei contatti tra le questure e le istituzioni scolastiche, e che servono a iniziare a segnalare da subito eventuali ragazzini considerati come potenzialmente devianti, che è una cosa scandalosa per qualsiasi paese sedicente democratico. Quindi si creavano proprio succedevano delle situazioni in cui delle note scolastiche venivano dai presidi trasmesse direttamente alle questure per indagare o segnalare alle autorità giudiziarie alcuni comportamenti degli alunni.
Almeno a quanto ci è arrivato in Italia, insomma, come informazione o come anche in qualche maniera il racconto che è arrivato fino a qua a Roma, almeno la rivolta del 2005 è stata particolarmente giovane, come età media, diciamo, comunque altri ragazzi. In questi giorni proprio parlavamo di qual era, in qualche maniera poi è stato il destino di quanti erano stati dei numerosissimi arrestati, numerosissimi fermati, minorenni, che a quanto pare appunto hanno apparentemente inizialmente hanno anche a quanto ci arrivava no, erano alla fine erano relativamente poche lì immediatamente le misure cautelari insomma di peso, ma a quanto appunto abbiamo avuto modo di confrontarci in questi giorni pare che con la crescita, col passaggio all'età adulta gli è stato fatto in qualche maniera scontare, quindi anche lontano dal clamore che aveva anche suscitato, immagino, a livello di dibattito politico e dibattito di opinione pubblica in Francia, questa rivolta in qualche maniera di ragazzini, spesso di ragazzi molto giovani. Quindi io penso anche raccontarci pure da questo punto di vista qual è stato.
Déjà bonjour, ben, moi c'est Mohamed et en fait sur le problème des jugements en fait des jeunes de 2005, en fait il y a eu un abattage au tribunal de Bobigny, en fait c'est le deuxième plus gros tribunal de Bobigny, et en fait il y avait c'était de l'abattage quoi. En fait il y avait vraiment c'était des jugements sans fondement qui passaient toutes les 15 minutes, le jeune était jugé en 15 minutes. C'est-à-dire, il n'y avait pas de jugement. On pouvait arrêter un jeune dans la rue, l'envoyer au tribunal et le juger en 15 minutes. Quoi. C'est-à-dire, c'était un abattage. Il y a des jeunes qui ont pris quand même 5 ans de ferme. C'est pas rien, quoi. C'est à un moment donné, le jeune de 16 ans qui prend 5 ans, c'est bon, sa vie, elle est foutue, quoi. Et on n'a jamais vu ça à un moment donné. C'était vraiment surréaliste, quoi. Parce que moi, je me suis retrouvé au tribunal de Bobigny avec Tarek, un autre militant du MIB. Et on n'en croyait pas nos yeux, quoi. Il n'y avait pas de soutien, quoi. Tous les partis de gauche nous avaient abandonnés, ils nous ont même stigmatisés pendant les deux premières semaines d'émeute, quoi. Et à un moment donné, ils n'étaient pas dans la rue avec nous, quoi. Et ils ont voté quand même des trucs. Ouais, la loi sur le couvre-feu, tout ça. Et à un moment donné, eux, ils sont descendus dans la rue au moment où il y a eu la loi du couvre-feu, justement, où le gouvernement interdisait tout regroupement, toute réunion de militants. C'est-à-dire, eux, à un moment donné, quand ils se sont sentis concernés, ils sont descendus dans la rue. Mais un mois après les émeutes, à un moment donné, c'était 2000 personnes, 2000 jeunes qui sont passés devant les tribunaux, qui ont pris de la ferme, quoi. À un moment donné, c'était surréaliste, quoi.
Allora, in qualche modo questa è anche forse un'informazione errata che è arrivata dall'Italia, nel senso che anche da subito dopo queste rivolte ci sono stati tantissimi giovani processati e condannati al tribunale di Bobigny, uno dei più grossi tribunali francesi. Addirittura era una situazione da mattatoio, cioè entravano giovani che venivano condannati ogni 15 minuti, cioè veniva emessa una sentenza ogni 15 minuti senza possibilità di difesa, senza dibattimenti, senza niente, quindi si vedevano così decine di centinaia di giovani che prendevano condanne anche fino a 5 anni come se nulla fosse. Questo è avvenuto senza, nell'assoluta assenza di qualsiasi sostegno o solidarietà di tutti i partiti della sinistra, che anzi si sono uniti al coro di criminalizzazione dei giovani delle banlieue, e si sono fatti vedere solamente quando, con le leggi del coprifuoco, le leggi sul coprifuoco in qualche modo toccavano anche loro, quindi toccavano anche i loro militanti o comunque le loro attività, allora hanno cominciato a protestare. Però fino a che venivano, c'erano queste 2000 condanne contro i sedicenni, nessuno si era mai fatto vedere in strada.
A proposito della legge sul coprifuoco, che effettivamente forse rappresenta poi uno dei, quella che è citata rispetto ai provvedimenti di emergenza, di militarizzazione fondamentalmente, di limitazione della circolazione nei quartieri, effettivamente non so, per la, tanto per noi quanto penso per la Francia, rappresenta veramente quanto una, un evento che traccia anche un segno di fino a dove comunque si spinge, si può spingere una, appunto una forza di governo, un'amministrazione nel gestire l'espressione comunque delle problematiche annose, insomma, delle periferie.
Bonsoir, je m'appelle Simon. Je voudrais juste apporter quelques précisions, je vais répondre un petit peu à ce que tu as dit. La loi sur le couvre-feu, on va en reparler, c'est quelque chose qui était visible, enfin qui a fait grand bruit. Il y a plein de choses dont on n'a pas parlé au moment des deux premières semaines. C'est-à-dire qu'il y a un quartier du nord de Lille, enfin de Lille, dans le nord de la France, qui a été, dont on a complètement coupé l'électricité pendant 8 heures la nuit, pour pas que les gens puissent s'organiser, faire quelque soit, etc. C'est la banlieue de M, à Lille Sud. On n'a pas parlé, on se rappelle plus des hélicoptères qui passent au-dessus des quartiers, des patrouilles militaires, c'est-à-dire des groupes de 20 CRS qui patrouillaient, l'arme au poing, etc. C'était quand même un état de... La loi sur le couvre-feu, elle arrivait dans ce contexte-là et après ce contexte-là. C'est-à-dire que, par exemple, pour des jeunes qui rentrent du sport, des jeunes ou des gens qui ont 20 ans, hein, qui font du sport, il fallait quelqu'un comme moi, qui suis un peu plus âgé qu'eux, qui est peut-être aussi le visage un peu plus blanc, qui les ramène chez eux, comme des enfants, parce qu'il y avait des contrôles de police. C'était ça aussi, il faut se rappeler de tout ça. Donc je vais oui.
Allora, questa legge sul coprifuoco, di cui si è parlato molto anche magari appunto per il portato simbolico che ha fatto molto rumore, in realtà è stata accompagnata da una serie di altri provvedimenti che sono stati più sottaciuti. A nord di Lille, un quartiere in una banlieue, veniva addirittura tolta l'elettricità per 8 ore durante la notte per impedire l'organizzazione di giovani, e tra quartieri sorvolati costantemente da elicotteri e pattuglie di quella che è la Cedere, diciamo, con le armi spianate che pattugliavano i quartieri, creando appunto un clima proprio di militarizzazione. Per i giovani che eventualmente uscivano anche da attività sportive nel pomeriggio e quant'altro, c'era proprio bisogno di una persona più adulta e magari con una carnagione più chiara che li riportasse a casa per non incorrere appunto in questi squadroni militari.
Je veux aussi donner quelques précisions sur les chiffres. Il y a eu 2000 arrestations très rapidement, mais il y a eu une loi pendant la sur le couvre-feu qui a été votée. On pouvait arrêter trois mois après une personne sur simple témoignage des policiers ou sur témoignage anonyme, ce qui fait qu'on est monté très rapidement à 5000 arrêtés.
Anche una piccolissima precisazione sulle cifre: ci sono stati effettivamente questi 2000 arresti subito, ma è stata introdotta una legge che permetteva di fermare sulla base della semplice testimonianza di un poliziotto o anche su testimonianze anonime le persone fino a 3 mesi dopo la flagranza, in qualche modo, e questa cosa ha fatto chiaramente aumentare i fermi fino a 5000.
On pourrait, enfin, s'il y a d'autres questions après, on pourra donner des chiffres, etc., quitte après éventuellement à faire une émission spéciale dessus. Je vais laisser la parole à Mohamed qui, pendant tout ce temps-là, lui a suivi les gens dans les tribunaux.
Sur les chiffres, magari torniamo dopo, oppure in una puntata più specifica. Adesso lascerai la parola a Mohamed, che ha seguito più specificamente la questione dei tribunali da vicino.
Tout d'abord, en fait, moi, je voudrais parler un petit peu de ce qui s'est passé, en fait, à Clichy-sous-Bois, parce que moi, j'y étais à Clichy-sous-Bois. En fait, après la mort des deux jeunes, il y a eu... moi, je me suis rendu là-bas vite fait pour aller voir les Lascars, tu vois, et parler avec eux. Ils étaient vraiment abattus, quoi. À un moment donné, moi, je discutais avec eux, c'était un peu tendu, mais ça va, quoi. Moi, je me suis rendu là-bas après le soir, moi, commençait à y avoir un petit peu les émeutes, en fait, l'affrontement avec la police, tout ça. Et moi, le truc qui m'a surpris le plus, en fait, c'était la solidarité des mères de famille. En fait, parce que les mères de famille, nous donnaient des bouteilles par les fenêtres. Parce que c'est pas qu'un truc de jeunes, parce qu'on dit souvent ceux qui sont fait arrêter, c'est des jeunes. Mais moi, j'ai pas vu que des jeunes, moi, j'ai vu des vieux, j'ai vu des mères de famille qui se faisaient braquer par les fenêtres, par les flics. Il y a eu des flics qui ont braqué des mères de famille par les fenêtres. À un moment donné, ça, il faut le dire, ça, c'est pas dit.
Allora, per tornare nello specifico alle rivolte, in particolare quelle di Clichy-sur-Bois, dopo la morte dei due giovani io sono andato nel quartiere anche a parlare con i ragazzi e li ho trovati proprio avviliti, cioè tristi. Ci sono tornato la sera per dare un occhio anche per vedere quello che erano gli scontri con la polizia e non ho trovato in realtà questo scontro di soltanto giovani. Sì, se vogliamo ritornare un momento anche sulla vicenda, magari per gli ascoltatori, se lo vuoi raccontare te.
Certo, riferito tu a quello che è stata un po' la miccia che ha fatto iniziare quella che appunto fu il mese di fuochi del novembre-dicembre 2005. La vicenda, come tante volte abbiamo già visto accadere in giro per la Francia, ma si vede poi effettivamente appunto lì la risonanza è maggiore, anche perché evidentemente la risposta spesso la risposta dei conoscenti e non solo è spesso proprio insomma cerca di essere il più clamorosa possibile rispetto alla denuncia di quanto accaduto. E anche in quell'occasione due ragazzi, Ziad e Bouma, se non sbaglio, Bouna, un maliano, un ragazzo di origine maliana, e un altro ragazzo di nordafricano, se non sbaglio, tunisino, in compagnia anche di altri giovani, sono trovati a morire all'interno di una centralina elettrica, folgorati. Un terzo è rimasto gravemente ferito perché inseguiti da agenti di polizia. Evidentemente qui stiamo parlando di ragazzi molto giovani, intorno ai 15 anni se non sbaglio, e evidentemente insomma la percezione anche di quella che è il rischio che può comportare un semplice fermo ha fatto che la via della fuga, evidentemente, ora senza appunto dover fare analisi di quale particolare motivo li spingesse alla fuga, spesso ci rendiamo conto anche, stiamo parlando anche di un tema molto caldo penso per questa città, per l'ambiente insomma che vive, per tutti quegli ambiti che vivono costantemente insomma la pressione della criminalizzazione, delle scelte insomma di securitarie che ci troviamo a vivere in questo momento in Italia, insomma anche la conoscenza di quello può essere arrivata all'estremo, quello può essere il rapporto con agenti di polizia può portare anche a questo tipo di scelte. I due ragazzi sono morti folgorati e evidentemente insomma quella è stata, insieme tra l'altro ricordiamola, anche un fatto molto politico, cioè la presa di posizione appunto dell'allora ancora ministro dell'interno Nicolas Sarkozy nell'identificare gli abitanti dei quartieri popolari come Rakhine, come Feccia, e quindi ancora lì il mancato riconoscimento evidentemente anche della dignità di cittadinanza poi effettivamente a pieno titolo, per quanto mai di origini culturali o nazioni diverse, cittadini francesi, elementi poi produttivi della società, elementi che hanno consentito anche alla Francia insomma di assumere il suo ruolo anche economico internazionale, insomma come succede nei paesi di immigrazione, soprattutto di immigrazione antica, di immigrazione in qualche maniera consolidata e radicata nel paese.
Insomma, appunto, rispetto agli scontri avvenuti la sera stessa, cioè la sera immediatamente successiva a questo fatto, anche rispetto a come è stata raccontata mediaticamente come una rivolta di soli giovani, io ci sono andato e ho visto una realtà diversa. La cosa più significativa è stata una grossissima solidarietà delle madri di famiglia che passavano addirittura le bottiglie da lanciare ai figli dalle finestre, e appunto non soltanto giovani ma anche madri, anche con scene di poliziotti che fermavano le madri alle finestre, le bloccavano proprio direttamente alle finestre mentre aiutavano i figli.
farei un attimo di una piccola pausa, prendiamo un pochino di fiato sia noi che i nostri ascoltatori, e per tornare poi dopo appunto con questo colloquio con Nurdin, Mohamed e Simon.
Ya no sabes, vida más cara que el sol. Vive con mala prensa, pienso más allá del sol. Las palabras famosas, pero es cristal, soy como la gente fuera grita, oh yeah. Caso, lazo, cuerpo, lento, fiel, man. El gasto, aprende, empujo, que ya me fui, punk, man. Un bobo, pacto, ya es un gang. Voy a llamar tono, ponte en función, tu agaste todo. Pare de disparo, pa' que se callen. Pero los del parque le callen, paran por la calle. Porque tendría miedo de más ejército. El pueblo unido jamás será vencido. Riquez, riquez, cash flow, bluff. Votre pourri, pour fan. Leur bon sourire, serve de cash flow, van. C'est comme ça que les rangs, les camps, se reconnaissent. C'est qui connaît dans les grands...
E quello che stiamo ascoltando come appunto momento di respiro per i traduttori come anche per i nostri appunto ospiti, stiamo ascoltando MC Furia, una compilation di rap appunto parigino, francese, che tra l'altro ci teniamo a dirlo è pienamente scaricabile, completamente scaricabile sul sito www.tchad-unpoe.net.
Here's the name of the game. That's right. One more time, please. Vous pouvez dormir maintenant.
Elle sort, on nous promet dehors. Ils ont besoin de te dompter. Sortez promener mes dors. Dormez, vous couchez. Faites mort ou mordez. Soyez folie ou chier. Sur ces chiens de policiers, on choisit son panier. Dormez, chaque nuit compte. Petit con en plus, c'est conseillé borné. Le pigeon donne ses plumes pour son propre oreiller. Dormez, sommeil de plomb, soleil suborné. Le feu des dieux qui promettait.
Ripreso un po' di fiato, possiamo appunto continuare con la nostra chiacchierata. Eravamo arrivati a, appunto al racconto proprio di quei giorni e di quali erano state sia le relazioni del quartiere con le reazioni dei quartieri all'annuncio della morte dei due ragazzi, sia anche discutendo un po' di quelle, poi ne emergono tante mistificazioni o comunque inesattezze di qualcosa che poi in fondo è successo veramente qua a due passi, è successo oltre appena un confine, quindi appunto una cosa che di cui ci stupiamo nel momento in cui vengono anche a mancare i livelli di informazione in qualche maniera essenziale, sia sulle, nonostante un gran dibattito, un fior di opinionisti che si sono accavallati per interpretare, dare un senso a quello che appunto poteva essere visto, cosa che accadeva, poteva accadere tranquillamente dentro il nostro paese, o comunque insomma tutte quelle situazioni di marginalità che rappresentano negli ultimi tempi un po' il cuore del dibattito securitario soprattutto in Italia, appunto poi a Roma appunto ne siamo anche in qualche maniera una punta un po' più in avanti dati gli anni insomma di amministrazione Veltroni. Quindi continuando con Mohamed a raccontare la sua lettura di quelli che sono stati quei giorni nella loro composizione, nella loro intensità. Possiamo continuare così.
No, en fait, je racontais un petit peu justement sur la solidarité des gens des quartiers et tout ça, les mères de famille qui ont été braquées et tout. Et à un moment donné, moi je suis arrivé vers 23h, un truc comme ça, et vers 4h du matin, j'ai senti vraiment la fatigue et des forces de police encore plus importantes, quoi. Et vers 4h du matin, il y a eu une charge, il y a eu une charge générale sur Clichy-sous-Bois. Et en fait, tout le monde s'est éparpillé, tout le monde est parti. Et je me rappelle encore un peu de la scène où j'ai grimpé un mur avec quelques personnes. En fait, c'est des gens qui n'étaient pas du quartier, parce que moi, je ne suis pas du quartier. Et on ne savait pas où vraiment aller, quoi. C'est-à-dire, on a fui vers une zone pavillonnaire. Dans la zone pavillonnaire, moi, j'ai vu une scène qui m'a vachement frappé, parce que c'est un truc qui m'est resté dans la mémoire. C'est une scène à 300 mètres des affrontements avec la police. Je vois une scène où il y a une femme et un homme qui sortent d'un pavillon juste à côté et qui embrassaient leur mère, en fait. Qui embrassaient une femme, une vieille femme. Et cette scène m'a vachement frappé parce que à 300 mètres, ça explose, ça brûle, il y a des arrestations, tout ça. Les gens, ils sont juste à côté, mais ils sont pas touchés par ce qui se passe, en fait. Et ça, c'est vachement frappant, quoi.
Sì, allora, per ritornare appunto a quella sera, io sono arrivato verso le 23, alle 4 di notte ormai si cominciava a percepire anche molto la stanchezza e allo stesso tempo l'aumentare della pressione poliziesca. C'è stata una carica molto importante a cui è seguita una fuga generale, diciamo, di tutti. Noi siamo scappati senza conoscere il quartiere, perché eravamo diciamo anche persone non del quartiere, e siamo scappati verso una zona residenziale poco distante, a 300 metri di distanza, e abbiamo visto una scena paradossale, cioè di una coppia che salutava in mezzo a queste villette un'anziana signora, probabilmente la madre di uno di loro, fregandosene assolutamente del fatto che a 300 metri c'era la guerra, le fiamme, stavano arrestando le persone. Giusto accanto, nella zona più residenziale, la vita continuava esattamente come se nulla fosse.
Ouais, en plus, juste après ça, quoi, j'avais envie de parler un petit peu de la réaction des mouvements de gauche et des partis, parce que franchement, moi, je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Et, peu après les émeutes, je suis parti voir, en fait, moi, je suis parti voir des copains, des copines qui étaient dans ces mouvements dits autonomes ou anarchistes ou communistes, je sais quoi d'autre, quoi. Et ça m'a vachement frappé, en fait, la réaction qu'ils ont eue par rapport aux émeutes. En fait, moi, j'entendais des trucs comme mais ils brûlent la voiture du voisin, en fait, ils brûlent la voiture du prolo. Pourquoi ils font ceci, pourquoi ils font cela? Parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qui se passe dans ces quartiers-là. Ils n'y vivent pas. Ils n'y vivent pas, ces étudiants. Des gens qui lisent des bouquins, qui lisent des livres, tout ça, quand il se passe quelque chose dont eux, ils ont toujours rêvé, ils ne le comprennent pas. Alors, ils ne sont pas descendus dans la rue. Moi, j'étais les voir, j'ai discuté avec eux, je leur ai dit, là, c'est le moment, descendez dans la rue. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont loupé une occasion de créer un lien. Ils ont loupé cette occasion-là. Tant pis pour eux.
Allora, io sono rimasto in qualche modo anche molto stupito da quella che è stata invece la reazione dei partiti e dei movimenti di sinistra, in qualche modo una reazione che non mi aspettavo assolutamente. Subito, appena sono iniziate queste rivolte, sono andato a parlare con i miei amici, appunto comunisti, anarchici, autonomi e quant'altro, insomma tutta una serie di movimenti, e la loro reazione mi ha stupito tantissimo, perché le uniche osservazioni che sentivo erano: ma perché bruciano la macchina dei proletari, perché bruciano la macchina dei vicini, tutte osservazioni classiche di chi non vive quel quartiere, insomma di chi era evidentemente estraneo a quella realtà. E quando, nel momento in cui la realtà andava a ricalcare quello che loro leggevano nei libri o speravano, loro non l'hanno capita e non sono scesi in strada a sostegno delle banlieue, e in qualche modo questa hanno perso anche l'opportunità di creare un contatto e un legame con queste rivolte e con questi giovani.
Je vais compléter un peu ce que dit Mohamed. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, la Fédération anarchiste, par exemple, a même signé un tract d'appel à réagir face à la situation qui incluait une demande de police de proximité. Donc les anarchistes, ils appelaient à la police de proximité. Il y a une fraction de lutte ouvrière, c'est les trotskistes très durs, qui ont dit que cette révolte, c'était le produit du lumpen prolétariat et qu'on devait le casser par tous les moyens. Et même les gens, par exemple, qui tournent autour des mouvements les plus radicaux, comme le RACH, etc., etc., expliquer que c'était pas une révolte, mais c'était tout simplement des imbéciles en crise d'adolescence, et que ça n'avait rien d'une révolte puisqu'il n'y avait pas eu de tract édité, il n'y avait pas de parole ou de choses comme ça. Et je repasse la parole à Mohamed tout de suite.
Allora, in qualche modo anche compagni come alcune realtà anarchiche hanno firmato addirittura un volantino che richiedeva la presenza di poliziotti di quartiere per soffocare questa rivolta. Altre realtà come i trotskisti hanno parlato di lumpen proletariato che andava fermato in tutti i modi, e anche settori più radicali non hanno saputo riconoscere questa protesta perché era molto lontana, perché magari non aveva i giusti volantini o le parole giuste, e quindi non la riconoscevano come una loro rivolta. Pensiamo ad esempio a tutta la realtà della RACH parigina.
Effettivamente questo discorso, diciamo, penso porta anche a ragionare su quello che è un po' l'espressione poi della produzione, poi dell'informazione, del far girare le informazioni, ma anche far girare in qualche maniera un proprio immaginario, una propria espressione culturale, una che è in qualche maniera qualcosa di specifico, che si esprime spesso appunto attraverso il rap, attraverso un genere musicale, che si esprime attraverso progetti di radio di quartiere, immagino, locali, che in qualche maniera possono ci sembra centino moltissimo parlarne da un microfono di una radio, nel momento in cui quello che ci state un po' descrivendo è sia un clima di pesante intimidazione, repressione securitaria, sia in qualche maniera anche un'incomunicabilità con i normali, insomma, interlocutori, quelli che dovrebbero essere i conflitti sociali, cioè le realtà più politiche sia di base che istituzionali.
Tout d'abord, en fait, il faut comprendre un truc en France, c'est que il y a toujours eu une espèce de paternalisme envers les immigrés. C'est-à-dire il y a eu un paternalisme depuis les premières arrivées d'immigrés, on va dire, africains ou subsahariens, comme ça, tu vois. C'est un truc qui est vachement ancré dans l'esprit français, même chez les militants, on va dire, les plus radicaux. C'est un truc un peu colonial, quoi, c'est-à-dire... Un militant, c'est-à-dire on va dire un militant, un étudiant ou un militant anarchiste, communiste, tout ça, il y a toujours ce truc dans la tête envers l'immigré, c'est-à-dire écoute-moi bien, petit immigré, moi je vais t'apprendre comment tu vas te battre. Et quand ils voient un immigré se battre, il le supporte pas, il le comprend pas. Il se dit, mais comment il y est arrivé, ce petit immigré là, il descend dans la rue, il écrit des tracts, il fait des journaux, c'est pas possible, c'est impensable. C'est vachement ancré dans leur esprit, et ça c'est un truc qui, à un moment donné, moi je suis toujours, je me critique, en fait, quand je fais des conneries, j'essaye de m'arranger, mais le militant français, c'est-à-dire l'étudiant syndiqué, tout ça, lui il n'y arrive pas, quand c'est un immigré qui se bat, il n'y arrive pas à comprendre.
Allora, in Francia c'è una sorta di paternalismo verso gli immigrati che è anche molto radicato, è proprio radicato nell'animo del francese, ed è una sorta di approccio coloniale che appartiene spesso anche a molti compagni, cioè l'idea di spiegare all'immigrato ti dico io come si fa a lottare, ti spiego io come si fa, e quando un immigrato si auto-organizza e appunto avvengono lotte in qualche modo spontanee, auto-organizzate, i compagni spesso faticano proprio a capire, è una cosa che non concepiscono, il militante medio non capisce tutta questa realtà data organizzazione dell'immigrazione.
Ouais, par rapport à ce que je viens de dire, peut-être que beaucoup vont comprendre que je suis très critique envers les militants, on va dire communistes, anarchistes, autonomes, ce qu'on veut, quoi. parce que moi j'ai pas de carte, hein, j'appartiens à rien. Mais moi je pense que le lien entre nous, en fait les jeunes de banlieue et eux, il doit être fait, quoi. On doit le construire. Mais est-ce que ça doit être nous qui devons baisser notre froc pour justement nous approcher d'eux? Non, c'est pas à nous. Nous, on n'a pas à s'approcher d'eux. Eux, ils viennent, ils essaient de nous comprendre. Ils essaient de comprendre dans quelle situation on est. Que eux, ils y sont pas, quoi. Ils essaient, il faut qu'ils apprennent à nous comprendre dans notre gestuelle, dans notre parole, tu vois. À un moment donné, je sais pas, il y a, c'est pas à nous. Nous, on n'a rien à... On n'a pas... ce lien-là, c'est pas à nous de le construire, c'est à eux. Eux, ils ont des moyens. Nous, on n'a pas de moyens. Nous, on vit avec rien. On vit avec rien du tout. On a fait un forum au mois de juin en France, à Paris. Non, plutôt à la banlieue à Saint-Denis, quoi. On l'a fait à l'arrache. Aucun parti nous a aidés. Il y a eu des petites aides à droite à gauche, mais rien, rien du tout. Ils sont pas venus. On a placardé dans tout Paris. On a placardé en province. On les a appelés, on leur a envoyé du courrier, on leur a envoyé des journaux. Ils savaient très bien que le MIF faisait quelque chose. Ils sont pas venus. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, certains ils supportent pas que les migrés ils s'organisent, quoi. Ça a eu de changer, c'est pas à nous. Et moi, je pense que le lien, il doit être fait.
Allora, come avete visto, in qualche modo vi sarete accorti che io sono molto critico verso le realtà di compagni francesi. Però ciononostante penso che questo legame tra i giovani delle banlieue e i compagni debba esistere, ma non possiamo essere noi a doverci adattare a loro. Loro hanno i mezzi per costruire questo legame, hanno i mezzi economici anche per costruirlo, sono loro che devono imparare a capirci nella nostra gestualità, nei nostri linguaggi. Noi quest'estate abbiamo fatto un forum sociale dei quartieri popolari, delle banlieue, e l'abbiamo fatto praticamente senza l'aiuto di nessuno, l'abbiamo costruito da soli, lo sapevano tutti, abbiamo attacchinato ovunque, nessun compagno praticamente dei vari partiti o dei movimenti è venuto, è passato a trovarci, loro lo sapevano eppure l'hanno disertato completamente, questo perché ritorniamo a quello che dicevamo, che non riescono a concepire l'auto-organizzazione di queste realtà.
Senti. Adesso riprende la parola Nordin, tra l'altro appunto 9:03, siamo in qualche maniera un po' in chiusura di questo spazio e ovviamente insomma pensiamo che sia un piccolo pezzetto poi di un'informazione informazione in qualche maniera che ha cercato di essere quanto più appunto densa per poter appunto avere modo in questi giorni di avere insomma quante più informazioni, conoscere quanto più possibile una di quelle realtà di organizzazione sociale di quegli ambiti di intervento che sentiamo insomma agitarsi nel cuore dell'Europa, nel cuore soprattutto poi di una delle grandi metropoli di riferimento a livello politico e culturale per questo, per l'intero continente e per il nostro paese poi in particolare. Abbiamo toccato ovviamente in maniera quanto più ce ne ha concesso dai tempi profonda insomma l'analisi poi del rapporto con la repressione che abbiamo sempre sempre arrivato come primo segnale poi un po' della reazione alle rivolte in generale alle proteste legate ai bisogni sociali delle periferie diciamo adesso passiamo la parola di nuovo a Nordin per magari anche fare un po' qualche conclusione intorno a questi giorni passati a Roma, ma in generale anche a quelli possono essere un po' delle vostre insomma prospettive prossime da comunicare in qualche maniera come in questo momento anche ai compagni italiani in ascolto, agli italiani i romani, ragazzi romani che in questo momento ragazzi e ragazze che ascoltano Onda Rossa per anche diciamo magari crea appunto anche riferimenti che avete come materiale eccetera per poter in qualche maniera approfondire la conoscenza di un contesto tanto vicino geograficamente quanto poi appunto mancanza poi di una di un'informazione magari che ci arrivi direttamente dai protagonisti di queste dell'organizzazione delle lotte sociali di quel paese non tanto sia quanto loro la loro viva voce ce la possa offrire. Quindi con questo gli passo la parola e appunto poi andiamo in chiusura.
On va dire qu'une société civilisée, on la voit par rapport aux moyens qu'elle utilise pour essayer d'emmener les gens vers le haut. Là, on assiste à une société qui, au lieu de répondre aux problèmes des femmes et des hommes des quartiers populaires, a fait un choix, le choix du sécuritaire, c'est-à-dire d'utiliser la répression comme moyen de terreur contre les gens. C'est-à-dire que ils ont mis en place depuis pas mal d'années. Et à comparaison, il y a des documents que j'ai lus internes à l'armée française, où certains préconisaient l'utilisation de la méthode de la bataille d'Alger, c'est-à-dire le quadrillage des quartiers en fouillant les maisons une par une, style méthode, c'est-à-dire avec un état d'esprit bien comme si qu'on était une population à part. C'est-à-dire il y a une volonté de nous stigmatiser, de nous criminaliser. Mais une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Je le vois, ça se passe pas seulement chez nous, en France, ça se passe aussi ailleurs en Europe. Je vois qu'il y a l'Union Européenne, mais ce qui serait bien aussi, c'est qu'il y ait peut-être l'Union des quartiers populaires, une force qui soit capable aussi de créer des moments de rencontre, et puis aussi des moments où les gens y mènent des actions. Chacun dans son pays, et puis des moments où les gens aussi se rencontrent pour réfléchir à quels moyens utiliser pour essayer de casser cet état d'esprit d'aujourd'hui, qui fait qu'une société qui donne plus de moyens aux sécuritaires et une société qui, pour moi, elle a plus d'âme, elle a plus de sens. Donc si on veut que la société de demain, elle permette à ceux qui évoluent, qui vivent dans les quartiers, d'accéder, comme tout le monde, un travail et une vie normale, parce que les gens, des fois on a l'impression que les gens ils demandent la lune, mais les gens ils veulent, on va dire, c'est peut-être pour certains c'est bête, hein, ils vont dire ouais, du travail, une maison, peut-être une famille, ouais, il y en a pour certains, il paraît que c'est bête, mais pour beaucoup c'est malheureusement peut-être des choses qu'ils connaîtront pas, et plus on voit comment les gens sont maintenus dans la précarité et dans la misère. On sait qu'aujourd'hui, en France, on est arrivé à vouloir réclamer à des gens qui touchent le revenu minimum d'insertion de travailler pour essayer de justifier cette somme. Et à côté de ça, on voit des grands chefs d'entreprise avoir le droit de partir avec des sommes qui représente je ne sais combien d'années pour je ne sais combien de personnes le revenu minimum, quoi. Donc, mon ami, comme vous dites, mon ami qui montre un slogan, nous, pendant des années, et c'est vrai que quand on parle par rapport à des événements en banlieue, tout ça, notre slogan, c'est pas de justice, pas de paix. C'est-à-dire que le mot justice, pour nous, c'est pas seulement la justice devant le tribunal, mais aussi la justice sociale et puis d'accès aussi au minimum dans la société. Parce que, bon, c'est bien beau de parler de justice, alors qu'on sait qu'une bonne partie de la population, elle est écartée de tout ça, sans parler du fait qu'elle n'accède pas forcément à la culture, qu'elle peut pas aller au cinéma, que, je veux dire, c'est la vie minimum. En termes clairs, c'est de la merde. Et ça, on voudrait faire croire que les gens, en France, sont des privilégiés. Hein? Mais on voudrait bien être privilégiés. Mais les gens qui vivent dans les quartiers populaires, dans les cités, sont très civilisés. Parce qu'ils vivent là, à des milliers, et jusqu'à preuve du contraire. Quand il s'est passé ces révoltes, il n'y a pas eu d'attaque contre des personnes. Il y a eu, bon, des faits, machin, mais il n'y a pas eu d'attaque contre des personnes. C'est que c'est vraiment une révolte au sens propre du terme. C'est pas un truc comme ça. Donc il n'y a pas eu des gens qui ont été chercher d'autres gens, les attaquer. Il n'y a pas eu ça, et tant mieux. Et j'espère qu'il n'y aura jamais ça. et que les gens ils comprendront aussi que même au travers du mouvement qui est en train de se passer sur les retraites ou sur le fait qu'on dise que bon, je sais que je dois terminer, donc
juste pour traduire un instant. Allora, diciamo che una società è civile, il grado di civiltà di una società si misura anche per i mezzi che usa questa società per migliorare le condizioni sociali. La società francese ha scelto di usare la repressione per terrorizzare la popolazione, addirittura ci sono documenti dell'esercito di qualche anno fa che propugnavano di prendere a modello in qualche modo la battaglia di Algeri, quindi immaginandosi rastrellamenti su vasta scala contro una popolazione nemica. E questo non succede soltanto in Francia, è un fenomeno europeo e per appunto come esiste l'Unione Europea dovrebbe esistere una sorta di unione dei quartieri popolari che fosse uno spazio di scambio e anche di analisi e eventualmente anche di azione comune per rispondere a una società che appunto che si adopera nel securitarismo più di ogni altra cosa e che è una società senza anima. Se vogliamo, cioè quello, una delle cose appunto che chiediamo è in qualche modo l'accesso al benessere per un benessere minimo che può essere anche soltanto un tetto o veramente un benessere minimo che per alcuni può far sorridere ma che per molti che vivono sulla loro pelle la condizione della precarietà invece è tantissimo. Uno degli slogan che abbiamo usato di più in questi anni è sempre stato senza giustizia nessuna pace, non parliamo della giustizia del tribunale, parliamo di giustizia sociale, di uguaglianza, di garanzie d'accesso a questo benessere minimo per l'appunto che sembra essere negato alla gente incivile, cercano di farci credere che nelle banlieue appunto vive gente incivile che in qualche modo non se lo merita, ma noi vogliamo anche ricordare che queste rivolte del 2005 non hanno mai attaccato persone, sono state rivolte contro merce, contro oggetti e questo dà anche un po' il significato di queste rivolte.
E, purtroppo siamo arrivati davvero in chiusura, speriamo di aver aperto una finestra che appunto pensiamo possa essere stata anche utile direttamente appunto soprattutto perché viene direttamente dalla voce una realtà che è attiva nel contesto della metropoli parigina, della cintura urbana di Parigi, per inquadrare un po' quelli che sono stati, che sono un po' i punti un po' basilari, fondamentali di un ragionamento che viene ormai appunto, dicevamo, da più di 10 anni attivato all'interno di un contesto particolare come questo, anche appunto, ripetiamo, nel cuore dell'Europa, di un'Europa che ormai ha nella sua agenda proprio la questione sociale trattata forse nella maniera più dura degli ultimi anni in termini proprio di definizione dell'emergenza sociale e trattamento poi di questa emergenza sempre più in toni appunto aspri, repressivi e quant'altro. Dovendo chiudere, ovviamente penso che la cosa più appunto più giusta sia lasciarci con ancora qualche pezzo di questa compilation che ci è stata portata alla radio dai ragazzi qui presenti, in particolare con una traccia che si chiama Histoire de France, la prima parte, che non so se vogliono introdurla come per quello che tratta, dato che viene considerata particolarmente anche esplicativa.
Oui, bonsoir. Avant de partir, cette petite pensée de musique, ça parle un petit peu de l'histoire du passé colonial de la France. C'était fait par un artiste qui s'est toujours montré solidaire et qui est sur plusieurs compiles. Il a participé, entre autres, à une compile pour demander la libération des prisonniers d'action directe, mais il a fait aussi plein de choses. Et profitez bien, quoi. Merci encore de nous avoir accueillis. Puis à bientôt. E pa giustizia, pa te.
Allora, questa canzone che stiamo per ascoltare parla del passato coloniale della Francia, è di un artista che si è sempre mostrato molto solidale con tutte queste cause, ha sempre appunto dato i suoi pezzi per svariate compilation. Un ringraziamento per averci ospitati in questa trasmissione e vi lasciamo con pa giustizia, pa te, ovvero senza giustizia nessuna pace. Bye.
Il était une fois un grand pays où l'on croit encore mille et une histoires. On dort mieux, on y fait la nuit, sauf le brouillard.